3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Un programme double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinéparc. John James Rambo est un personnage fictif apparu pour la première fois dans un roman écrit en 1972 par l'auteur canadien David Morrell et intitulé First Blood. Morrell s'est inspiré du nom Rambo Apples qu'il trouva en Pennsylvanie. Cette sorte de pomme avait été nommée ainsi en l'honneur de Peter Gunnarsson Rambo qui avait navigué de la Suède vers l'Amérique dans les années 1640. Beaucoup de ses descendants se trouvent d'ailleurs encore dans la région du Delaware aux États-Unis. L'auteur, qui est né à Kitchener, en Ontario, en 1943, sera également inspiré pour écrire son roman par les expériences de plusieurs de ses étudiants qui avaient combattu au Vietnam. Débutant l'écriture de son livre en 1968, Morrell s'inspirera principalement de deux soldats. Le premier étant un héros de la Seconde Guerre mondiale, Audie Murphy. Ce dernier souffrant de troubles de stress post-traumatique non traités dans ses années d'après-guerre. L'autre soldat sera Arthur J. Rambo, un véritable soldat américain ayant servi au Vietnam et qui n'en est jamais revenu. Son nom, d'ailleurs, peut être vu sur le mur du Memorial de la guerre du Vietnam à Washington. Le défunt soldat obtiendra le nom John en référence à la chanson « When Johnny Comes Marching Home Again », une chanson populaire de la guerre civile américaine qui exprimait le désir des gens pour le retour de leurs amis et parents qui combattaient pendant le conflit. Né le 6 juillet 1947 à Bowie, en Arizona, ce personnage fictif de la littérature s'enrôlera dans l'armée américaine après avoir obtenu son diplôme de Rangeford High School en 1965. Son service débutera en 1966 et Rambo sera alors déployé au Vietnam du Sud en septembre 1966. Il est retourné aux États-Unis en 1967 et a commencé à s'entraîner avec les forces spéciales de l'armée américaine à Fort Bragg, en Caroline du Nord, sous la tutelle du colonel Samuel Trotman. À la fin de 1969, Rambo fut redéployé au Vietnam en tant que membre d'une brigade spéciale. Il deviendra par la suite membre d'une unité de patrouille de reconnaissance à longue portée des forces spéciales, commandée par le colonel Trotman. L'équipe de Trotman recevra le nom de code de Baker Team et se composait généralement de 8 hommes. Rambo recevra sa libération militaire officielle en 1974. À son retour aux États-Unis, le soldat sera alors hanté par ses expériences au Vietnam et se sentira exclu de la société nord-américaine, la même qu'il avait défendue pendant tant d'années. Interprété par l'acteur Sylvester Stallone de 1982 jusqu'en 2019, John Rambo est aujourd'hui considéré comme une icône culturelle, ayant à son actif plus de 5 films, une série d'animation, de nombreuses apparitions dans des comic books ainsi que dans des jeux vidéo. Donc, préparez-vous à affronter les forces de l'ordre, puis par la suite vous diriger au Vietnam pour secourir des prisonniers de guerre disparus, alors que je vous parlerai ici des deux premiers films de la franchise First Blood, avec le film de 1982 First Blood, du metteur en scène Ted Kotcheff, suivi de Rambo First Blood Part 2, du réalisateur George P. Cosmatos.
It's our pleasure to welcome you to your friendly drive-in theater. For the information of those who are attending the drive-in for the first time, the following hints will make you feel at home and add to your enjoyment. Firstly, if you've not already done so, remove the speaker from the stand and place it in your car. Secondly, adjust the volume control to suit your requirements. Right for loud, left for soft. We must issue this warning. No attempt should be made to disconnect the speaker. To do so, we'll immediately register a red light in our control room. Our ultra-modern snack bar is now open and ready to serve you. How about fresh fillets of fish with chips and salad? Tender steak with eggs, chips, and salad. A big cup of hot chips or fish and chips. Thick, crunchy hamburger. Giant-size hot dogs laced with sauce or mustard. Banana fritters with rich, full cream. Steaming hot coffee. Icy orange or lemon drink. Smooth, creamy ice cream. And a great range of sweets and chocolates. Our snack bar is open for service. One final word. Before leaving, replace the speaker on its stand. Then drive forward and move to your left. You must never reverse out of your position. Thanks, everyone. We trust you have a very pleasant evening.
Good evening, ladies and gentlemen. We're happy to announce that we've installed Burns-O-Matic in-car heaters for your comfort and pleasure. When you receive your heater, you'll find it very easy to place in your car. Just roll down your front window and rest the heater's bracket on the window with the cylinder on the outside of the car. Roll up your window securely as far as it will go to hold the heater firmly in position. For maximum results, tilt the face of the heater towards the windshield and sit back and enjoy the show in healthful comfort. With these modern, safe, efficient in-car heaters, this drive-in theater will now remain open all year round. If you have any further questions about your Burns-O-Matic in-car heater, please contact one of our theater attendants. And remember, this drive-in theater will now remain open all year round, regardless of the weather.
The management and staff of this theater wish every one of you a very, very happy Christmas. Here's to a gay, exciting new year.
Settle back now, content, comfortable, well-fed, and ready for some fine entertainment. Is everybody happy? Then let's go! It's showtime!
John Rambo, a drifter, just passing through their town.
Morning!
Headed north or south?
North.
Now jump in. I'll make sure you're heading the right direction, huh?
You got some place I can eat around here?
There's a diner about 30 miles up the highway.
Is there any law against me getting something here?
Yeah, me. I want you to book this gentleman for vagrancy, resisting arrest,
carrying a concealed weapon.
They knew he was innocent.
Starting to dislike you. Lot.
And they didn't give a damn.
That's okay, Ward. Don't worry about the soapy stuff. Just shave it.
Drag.
Don't move. I don't want you to cut your own throat.
John Rambo. One man who's been pushed too far.
You're finished! You've gone as far as you're gonna go!
Heading straight for the top.
Right on top of him. There's no way out of here except through us.
He was hunted. Trapped.
There he is! On the cliff!
And forced to fight back.
Don't push it. Don't push it, I'll give you a war you won't believe.
Teasel, you and all your men couldn't handle him before. Now, what makes you think you can handle him now?
Because God knows what damage he's prepared to do.
You don't seem to want to accept the fact that you're dealing with an expert in guerrilla warfare.
Are you telling me that 200 men against your boy is a no-win situation for us?
You send that many, don't forget one thing. A good supply of body bags.
Sylvester Stallone. This time, he's fighting for his life. First Blood.
First Blood, ou Le Dévastateur, est un drame qui a été distribué en salle par les studios Orion Pictures le 22 octobre 1982. Ce film américain d'une durée de 93 minutes a coûté 15 millions à produire et a amassé plus de 125,2 millions de dollars à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve Ted Kotcheff, lui qui avait réalisé les films North Dollars 40, Folks et Uncommon Valor. Au niveau du poste de producteur, eh bien, ce sera le producteur américain Buzz Fetchans, lui qui avait produit les films Conan the Barbarian, 1941 et Uncommon Valor. Et finalement, ce sera les trois scénaristes américains, soit Michael Kozol, qui avait écrit divers épisodes de la série Kolchak The Night Stalker, Quincy M.E. et Kojak, William Sackheim, lui qui avait travaillé sur les films The Human Jungle, Forbidden et Barricade, et finalement, Sylvester Stallone, lui qui avait écrit les scénarios de Rocky, Fist, Cobra, Cliffhanger et Rainstone. Au niveau de la distribution, eh bien, on y retrouve l'acteur américain Sylvester Stallone. À ses côtés, nous y retrouvons Richard Crenna, Brian Dennehy, Bill McKinney, Jack Starrett, Michael Talbot et Chris Mulkey. Un vétéran du Vietnam, injustement arrêté pour vagabondage par le shérif d'une petite ville américaine, s'échappe et se réfugie en montagne où la police locale tente de le capturer sans savoir que celui-ci est en réalité une machine de guerre parfaite surentraînée. Suite à la publication du livre First Blood en 1972, le producteur américain Lawrence Turman, qui avait travaillé sur The Flim Flam Man et The Graduate, achètera les droits cinématographiques pour la Columbia Pictures au montant de 75 000 $. Ce sera le réalisateur américain Richard Brooks qui sera alors choisi pour mettre en scène le long-métrage, ce dernier travaillant à Hollywood comme producteur et réalisateur depuis 1950. À cette époque, le film se devait d'être une allégorie sur les différentes perceptions américaines des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre du Vietnam. Cependant, comme cette guerre n'était pas encore terminée, le projet fut rapidement abandonné. C'est alors que le producteur américain John Challey rachètera les droits pour la compagnie de production Warner Bros. Pictures pour plus de 125 000 $ avec l'idée de choisir Robert De Niro ou Clint Eastwood pour interpréter le rôle de John Rambo. Un scénario fut alors écrit par Walter Newman, ce dernier ayant travaillé sur des films à gros succès tels que The Magnificent Seven en 1960 et The Great Escape trois ans plus tard. Les réalisateurs Martin Ritt, Sidney Pollack, Martin Bregman et Mike Nichols seront alors approchés afin de diriger le film, mais à chaque fois, le projet n'aboutira pas. Un nouveau scénariste, David Rabbi, fut entre-temps embauché pour écrire une nouvelle version du scénario. dans toutes les versions initiales du script, le personnage de Rambo perdait la vie d'une façon dramatique. Pour chaque passage d'un nouveau réalisateur, le duo d'acteurs choisi changera, Martin Ritt voulant Robert Mitchum et Paul Newman dans les rôles-titres, Sidney Pollack considérant Steve McQueen et Burt Lancaster, et finalement, Martin Bregman désirant Al Pacino dans le rôle-titre, ce dernier refusant finalement le rôle car il trouvait le scénario beaucoup trop sombre. Puis, arrivera 1977, un moment où le producteur américain William Sackheim se joindra au scénariste Michael Kozol pour écrire un nouveau scénario qui sera alors acheté par le producteur Carter DeHaven, film qui devait toujours être produit par les studios de production Warner Bros. DeHaven obtiendra son financement de la compagnie Cinema Group et engagera alors le réalisateur John Frankenheimer pour mettre en image le script. Brad Davis et George C. Scott furent embauchés pour les rôles principaux, mais alors que la production était sur le point de débuter en Géorgie, le projet sera de nouveau mis sur la glace lorsque la compagnie qui avait signé pour la distribution du long-métrage fut acquise par la compagnie de production Orion Pictures. C'est à ce moment que les cofondateurs de la compagnie de production de films Carolco Pictures, Mario Cazar et Andrew G. Vajna, liront le livre de David Morrell et seront intéressés à produire une adaptation cinématographique du dit roman. Ils achèteront alors les droits du film à Warner Bros. Pour plus de 375 000 $ et achèteront également le scénario de Sackheim et Kozov pour 125 000 $ additionnels en 1981, scénario qui avait été alors réécrit par Kozov, dans lequel Rambo survivra à l'aventure pour la toute première fois. Ce sera alors le réalisateur canadien Ted Kotcheff qui fut alors embauché. Kotcheff, divisant son travail entre le cinéma et la télévision depuis le milieu des années 1950. Le metteur en scène canadien se verra demander par ses producteurs quel serait l'acteur qu'il voyait dans le rôle-titre et ce dernier demandera l'acteur Sylvester Stallone, celui-ci étant capable d'une grande sensibilité malgré son visage très dur. Vajna et Cazar seront hésitants, Stallone n'ayant obtenu à cette époque le succès qu'avec Rocky, mais finalement céderont à la demande de Kotcheff qu'il considérait parfait pour le rôle. Le scénario sera envoyé à l'acteur qui acceptera le poste après avoir lu le script en un seul week-end. Lors de son embauche, Stallone va demander à être impliqué à la réécriture du scénario, ce à quoi acquiesça le réalisateur. Un salaire de plus de 2 millions de $ sera alors alloué à Stallone, ce dernier obtenant un 1,5 million de $ additionnel pour la vente des droits de diffusion télévisuelle. Bien qu'ils n'apparaîtront pas au générique, les scénaristes Larry Gross et David Giller effectueront une révision du scénario final avant que celui-ci ne soit remis entre les mains de Stallone une nouvelle fois. Alors que, dans le roman, Rambo tue sans discernement plus d'une douzaine de personnes après avoir craqué en raison de ses horribles expériences au Vietnam, Stallone était persuadé que cela serait mal reçu par l'auditoire et décidera alors de transformer le personnage en un anti-héros sympathique qui ne tuera pas une seule personne dans le film, le seul décès survenant alors de façon accidentelle. Pour compléter la distribution, les producteurs approcheront les lauréats des Oscars Gene Hackman et Robert Duvall pour le rôle du shérif Teasel, mais tous deux refuseront le rôle alors que Lee Marvin, un autre lauréat d'un Oscar, sera approché pour le rôle du colonel Trotman, rôle qu'il refusa également. Ce sera finalement l'acteur Kirk Douglas qui obtiendra le rôle de Trotman alors que Brian Dennehy obtiendra celui de Teasel. Après le début du tournage, Stallone choisira personnellement le célèbre coutelier Jimmy Lyle pour concevoir et créer le fameux couteau emblématique utilisé par Rambo. L'objectif était de créer un couteau qui pourrait être fiable dans des situations de survie extrêmes, notamment en étant suffisamment long et tranchant pour trancher de la nourriture ou couper du bois. En tout, plus de 6 couteaux furent créés pour être utilisés avec des versions mises à jour supplémentaires réalisées pour les films suivants de la franchise. Avec un budget de plus de 12 millions de $, le tournage devait débuter le 15 décembre 1981 dans la petite ville canadienne de Hope, en Colombie-Britannique. Cet emplacement ayant été choisi pour son temps humide et brumeux, ainsi que pour son terrain accidenté et montagneux, possédant une forêt côtière des plus denses. Cependant, l'acteur Kirk Douglas se pointera sur le plateau de tournage avec ses propres notes en rapport avec la fin du film, qui n'avait toujours pas été écrite à ce moment. En effet, il y avait eu un échange entre Stallone et Kotcheff à savoir si le personnage de Rambo devait survivre à la fin du long-métrage, Stallone croyant que le personnage devait survivre, contrairement au tragique destin de ce dernier dans le livre. En plus de désirer plus de temps d'écran, Douglas désirait que son personnage mette fin au jour de l'anti-héros et que ce dernier quitte la scène en voiture avec le bandeau de Rambo dans l'une de ses mains. Stallone refusa et Douglas décidera alors de quitter la production, forçant Kotcheff à reporter le tournage de plus de 2 jours. L'acteur Rock Hudson sera alors approché comme remplaçant, mais ce dernier devait subir une chirurgie cardiaque, ce qui forcera l'acteur à refuser le poste, laissant alors la chance à l'acteur Richard Crenna, qui devra alors se rendre sur le plateau de tournage, et ce, en moins de 24 heures, pour débuter le tournage de ses premières scènes. Une autre situation difficile surviendra juste avant le début de la production où Ed Carline, qui avait été initialement instauré au poste de producteur du film, subira une crise cardiaque et dut être remplacé par le producteur Buzz Fetchen. Les lieux choisis pour le tournage connaîtront tout d'abord un temps inhabituellement chaud et ensoleillé, ce qui posera des défis techniques puisque l'équipe avait compté sur une température beaucoup plus brumeuse et sombre. Cependant, une période de forte chute de neige à partir de janvier 1982 retardera la production de plus de 2 mois. D'autres retards seront causés par de sérieuses blessures aux membres de la distribution ainsi qu'aux cascadeurs lors du tournage de certaines cascades. Stallone effectuera plus de 75 % de ces dites cascades, incluant celle durant laquelle le personnage de Rambo saute d'une falaise et tombe à travers les arbres, séquence où Stallone finira par se casser plusieurs côtes. En fait, Stallone a défié la mort à plusieurs reprises, plus particulièrement dans la scène où Rambo s'échappe de la prison locale, cette dernière étant peu chorégraphiée par le réalisateur. Durant la dite séquence, Stallone s'empare d'une moto et fuit la police qui se lance alors à sa poursuite. Cette scène fut l'une des toutes premières tournées au centre-ville de Hope et de nombreux spectateurs étaient alors présents pour regarder l'événement. Cependant, à un certain moment de la séquence, Stallone entre de manière inattendue avec sa moto dans la foule de spectateurs et heurtera accidentellement un jeune garçon qui servait de figurant. Le jeune homme ne sera heureusement pas gravement blessé. Durant une autre séquence, Stallone conduira sa moto sur un long chemin de terre et verra la mort de près lorsqu'un camion de transport passera accidentellement de l'autre côté des barrières de sécurité, forçant alors l'acteur à effectuer une manœuvre dangereuse pour éviter la collision. Toujours durant cette poursuite, la voiture du shérif Teasel dévale une colline sur le côté et se retournera, moment qui ne sera pas prévu et qui causera une blessure sérieuse au cascadeur Benny Dobbins, qui subira une fracture lombaire par compression et se cassera le dos. Transporté d'urgence à l'hôpital Fraser Canyon, l'homme ne restera heureusement pas paralysé suite à cet accident. D'autres blessures sérieuses surviendront à d'autres comédiens du film, notamment durant la scène de l'évasion de la prison où Stallone cassera accidentellement le nez de l'acteur Alf Humphreys en lui donnant un coup de coude au visage, le cri de ce dernier étant bien réel dans le film. Même l'acteur Brian Dennehy n'échappera pas aux blessures, ce dernier faisant une chute de plus de 8 pieds de haut lorsqu'il passera à travers du toit du poste de police en se brisant les côtes en tombant accidentellement sur un bureau. D'autres problèmes surviendront durant la production, dont le vol de plus de 50 000 $ d'armes à feu. En effet, ces armes durent être importées au Canada en raison de la réglementation sur les armes à feu au pays. Cependant, en janvier 1982, 14 fusils M16, 3 fusils de chasse Remington, 2 revolvers 44 Magnum, 2 mitrailleuses M60 et 11 fusils Colt AR-15 furent volés sur le plateau de tournage, forçant la Gendarmerie royale du Canada à enquêter sur le dit crime. Suite à cet incident, le plateau sera gardé par l'armée américaine, dont les soldats serviront également de figurants dans le film. trois hommes, tous membres de la milice canadienne, furent arrêtés et accusés du vol. À la fin de 1984, les autorités avaient récupéré 15 des 47 armes volées, y compris les deux mitrailleuses M60. À cause de tous ces problèmes, la production dépassera ses délais de tournage, forçant la coupure de certaines séquences avec l'acteur Richard Crenna afin d'éviter d'avoir à lui payer des frais plus élevés comme spécifié dans son contrat. Au final, le budget terminera avec 3 millions de dollars de plus que le montant initial. Malgré cela, la communauté de Hope était ravie d'accueillir la production de First Blood. Les enfants d'âge scolaire auront même droit à des pauses dans leurs études pour se rendre durant leur classe sur le plateau de tournage. Les entreprises de Hope ont également embrassé de tout cœur l'excitation de cette production, créant un concours afin de décorer leur magasin avec des décorations de Noël dans leur vitrine, et ce, jusqu'à la fin du tournage, en avril 1982. Un téléviseur couleur portable Panasonic fut remis au gagnant du dit concours. En plus de la ville de Hope, First Blood sera également tourné dans le parc de Coquihalla Canyon, appelé Chapman Gorge, à Capilano Canyon, au parc provincial Golden Ears, ainsi qu'au lac Pitt à Pitt Meadows. Cependant, la conclusion du film sera toujours un problème, Rambo devant mourir dans la version initiale du réalisateur, alors que Stallone continuait de se battre pour la survie de son personnage, trouvant que de tuer Rambo serait un très mauvais message à envoyer aux vétérans de la guerre du Vietnam. Pour contrer cette problématique, le réalisateur décidera de tourner sa version ainsi que celle de Stallone, et ce sera finalement Vajna Kazar et le producteur Buzz Fetchans qui choisiront la version de Stallone, permettant finalement au personnage de survivre et également donner la possibilité d'une franchise si le succès au box-office était rencontré. La première version du montage final du long-métrage sera de plus de 3 heures. Stallone fut très inquiet à ce moment-là, le résultat final étant très mauvais à ses yeux. Cependant, après de lourdes rééditions, le film sera finalement réduit à seulement 93 minutes. En mars 1982, Kazar et Vajna chercheront une compagnie pour distribuer le film en salle. Présentant plus d'une cinquantaine de minutes au American Film Market, Warner Bros. Et Paramount Pictures manifesteront leur intérêt, mais ce sera finalement Orion Pictures qui acceptera de s'occuper de la distribution nationale du film, Orion venant tout juste de se séparer de la compagnie Warner Bros. Ce sera le compositeur américain Jerry Goldsmith qui créera la partition musicale du film, dont le thème « It's a Long Road », qui ajoutera une nouvelle dimension au personnage de Rambo, sera utilisé dans les films suivants et la série d'animation Rambo, The Force of Freedom. Sortant en salle en octobre 1982, First Blood amassera plus de 9,2 millions de dollars durant son premier week-end et restera en tête du box-office nord-américain durant plus de 3 semaines. Le long-métrage terminera sa course dans les salles obscures après avoir amassé plus de 51 millions de dollars en Amérique du Nord, le reste étant amassé dans le reste du monde. First Blood sera le tout premier blockbuster américain à être présenté en Chine 3 ans plus tard, soit en 1985, et vendant plus de 76 millions de billets sur le territoire chinois, le plus haut montant de billets vendus sur ce territoire pour un film américain, et ce, jusqu'en 2018. En mai 2013, la compagnie Original Entertainment signera un accord avec la compagnie Millennium Films pour produire des remakes bollywoodiens de First Blood et des 4 suites de la franchise. Ce ne sera qu'au début de 2016 que le réalisateur Siddharth Anand sera nommé directeur du remake du tout premier First Blood. Le film suivait Rambo, le dernier membre d'une force d'élite des forces armées indiennes, rentrant chez lui pour découvrir qu'une autre guerre l'attendait, le forçant à se rendre dans les jungles et les montagnes de l'Himalaya et à semer le chaos et la destruction. Ce sera l'acteur Tiger Shroff qui fut choisi pour interpréter le rôle de Rambo avec un tournage prévu pour février 2018. Le film devait sortir en salle en octobre 2020, mais de continuels retards frapperont la production et Hanan se retirera du poste de réalisateur en 2020, étant alors remplacé par le metteur en scène Rohit Dhawan. Actuellement, le projet de film est continuellement repoussé, soit à cause de différends artistiques ou encore parce que l'horaire du temps de l'acteur Tiger Shroff ne lui permet pas de participer au tournage. Le projet reste donc en suspens durant la création de cette émission. Malheureusement, l'acteur Brian Dennehy décédera le 15 avril 2020 à l'âge de 81 ans des suites d'un arrêt cardiaque causé par la maladie de sepsis. Dennehy était un acteur très aimé à Hope, ce dernier se mêlant à la population durant le tournage et passant des soirées à un pub de la place payant des tournées aux personnes présentes. Une statue de son personnage sera érigée en son honneur en 2022 dans le centre-ville de Hope. Le directeur de la photographie, Andrew Laszlov, nous quitta également le 7 octobre 2011 après plus de 50 ans d'expérience dans le domaine de la production cinématographique. Il décédera chez lui, dans le Montana, à l'âge de 85 ans, des suites d'une maladie subite diagnostiquée en milieu d'année. Une statue en bois de cèdre de John Rambo fut dressée dans la ville de Hope le 14 août 2020. Le maire, Peter Robb, le député canadien, Mark Straw, et le sculpteur de la statue, Ryan Villers, ont tous assisté à la cérémonie. L'année 2022 marquera le 40e anniversaire du tournage du film. Un événement sera alors organisé dans la ville, située à environ 150 km à l'est de Vancouver, pour honorer le long-métrage. Le sculpteur Ryan Villers fut de retour afin de créer une nouvelle sculpture, celle du shérif Teasel, à la mémoire de Denis. Les activités organisées furent un concours de planches à roulettes, une exposition d'art liée à John Rambo, des parties de paintball, des concours comprenant des prix pour le plus beau Rambo, des projections de films, ainsi qu'une visite à pied de plus de 3 heures des lieux où le film fut tourné. Le site web Film.com décrira First Blood comme l'un des meilleurs films de 1982 et le long-métrage sera nommé en 2008 par le magazine Empire le 253e des 500 plus grands films de tous les temps. Du côté des points forts, eh bien, un film de survivance dont la qualité dépasse ce que l'on peut s'attendre en général de ce style de spectacle. First Blood bénéficie d'une excellente prestation de ses deux acteurs vedettes, soit Sylvester Stallone et Brian Dennehy. L'intérêt premier de First Blood est sans contredit son regard critique de cette Amérique qui semble avoir abandonné ses vétérans de la guerre du Vietnam, ces derniers ayant été abandonnés par un pays pour lequel ils se sont battus et dont la guerre du Vietnam fut leur seule véritable défaite. La photographie ici est tout simplement superbe, le directeur photo profitant de la beauté des paysages canadiens de la ville de Hope, le tout rehaussé par la musique extraordinaire du compositeur Jerry Goldsmith, en pleine forme ici. Au final, Rambo est un anti-héros torturé et incompris qui est trahi par une population qui l'a défendu au péril de sa vie et qui est seul face à ce monde irrespectueux dont le dialogue final est un coup aux tripes pour les vétérans de cette guerre qui sauront se reconnaître ici. De plus, le fait que Stallone interprète lui-même la majorité de ses cascades et qu'il se soit entraîné pour son rôle apporte ici une touche de réalisme dur qui font de First Blood un film à part dans sa catégorie. Mais du côté des points faibles, eh bien, bien que l'action soit très bien rythmée ici, cela enlève toute chance au scénario de développer la psychologie des personnages qui apparaît ici vraiment simpliste. Bien que la photographie soit magnifique, le réalisateur Ted Kotcheff se contente de nous donner des scènes avec une technique parfaite, mais sans trop se forcer du côté artistique, donnant un visuel qui fait par moments très télévision et pas assez cinématographique. Les dialogues manquent de profondeur et sont très superficiels, notamment entre les acteurs Dennehy et Crenna, ce dernier donnant une prestation même quelque peu mécanique. Après une première moitié de film très bien rythmée, la seconde partie traîne quelque peu en longueur, principalement due à des séquences de bavardage inutiles. Du côté de la composition musicale, eh bien, c'est le compositeur américain Jerry Goldsmith, lui qui avait travaillé sur les films Gremlins, Star Trek The Motion Picture, Planet of the Apes, le film de 1968, Inner Space et Psycho 2, qui s'est occupé ici de réaliser la trame sonore du dit film. Trame sonore que vous pouvez retrouver en CD sous l'étiquette Intraga, une trame sonore qui est sortie en 1988. Vous avez eu une nouvelle édition qui est sortie sous l'étiquette Varese Saraband en 2000. Et finalement, First Blood, The Complete Soundtrack, une trame sonore que vous pouvez trouver sous l'étiquette Intrada et qui fut distribuée en CD sur le marché le 22 novembre 2010.
Mr. Projectionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of taste-thrilled treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There are soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land. And now meet the star of our show. Symbol of a treat that quality made famous. America's most famous ice cream treat, Eskimo Pie. Creamy, delicious ice cream made even more exciting with smooth, rich chocolate coating and wearing the label of quality known the world over. Eskimo Pie, the treat you know is Tops because it carries its pledge of quality right on the back of the bag. Be sure you save the bags for valuable premiums. Get famous Eskimo Pie at our refreshment stand now. It's America's anytime taste treat. Finest ice cream, finest chocolate. It's delicious.
Imagine you're Rambo with your fighting machine. Ordered to take position 19.
Rambo,
force of freedom.
With the Rambo power cycle, you got what it takes to track the enemy down, make him shiver and shake.
Rambo,
force of freedom.
Now, you got him right in your sight. You're fighting for justice,
fighting for a right.
Rambo,
force of freedom.
The Rambo power cycle with headband included by Coleco.
We're now just 1 minute away from the beginning of our next feature. For your convenience, our refreshment stand will remain open after the feature begins, so you still have time to add to the fun of watching the movie. Before we begin our next feature, we'd like to remind you to replace your speaker before leaving the theater. If it is accidentally damaged, please notify someone at the refreshment stand. Again, thank you for coming out to the drive-in tonight. As you leave, please drive carefully, and come back soon.
And now, on with the show.
More out of life. Go out to a movie.
Army 6 June 69. Accepted Special Forces. Helicopter and language qualified. Expert in light weapons and guerrilla warfare. Sylvester Stallone is back as Rambo.
Rambo's the best combat vet I've ever seen.
His mission, to locate American POWs in Vietnam.
Think you'll find someone? POWs? Doubtful.
Come on, go back, go back!
His orders, not to engage the enemy.
He's
got 36 hours to complete the mission and reach the extraction point.
We're going down!
You're not going anywhere.
I'm telling you to abort.
Double-crossed and left behind enemy lines.
You're the one who's making the mistake.
Yeah, what mistake?
Rambo.
And now, he's getting out any way he can. Rambo, what most people call hell, he calls home. No man, no law, no war can stop him. Sylvester Stallone is back as Rambo, First Blood, Part 2.
Rambo, First Blood, Part 2, ou encore Rambo 2, La Mission, est un drame de guerre qui a été distribué par les studios TriStar Pictures le 22 mai 1985. Ce film américain d'une durée de 96 minutes a coûté 25,5 millions de dollars à produire et a amassé plus de 300,4 millions de dollars à travers le monde entier. Sur le poste de réalisateur, on y retrouve le réalisateur gréco-italien George P. Cosmatos, lui qui avait réalisé les films Cobra, Leviathan et Of Known Origin. Au poste de producteur, eh bien, c'est le producteur américain Buzz Fetchans, lui qui avait produit les films Coffee, Dillinger, Red Dawn, la version de 1984 et Tombstone. Et finalement, James Cameron, ce scénariste canadien qui nous avait donné les films Terminator, The Abyss et Strange Days, écrira le scénario aux côtés du scénariste américain Sylvester Stallone, lui qui avait travaillé sur les films Paradise Alley et Over the Top. Au niveau de la distribution, eh bien, on y retrouve l'acteur américain Sylvester Stallone, Richard Crenna, Charles Napier, Steven Berkoff, Julia Nixon, Martin Cove et George Chung. Un vétéran du Vietnam, libéré de prison par son ancien commandant, se voit offrir ici une mission spéciale dans laquelle il doit se rendre au Vietnam afin d'aller chercher la preuve que les Vietnamiens détiennent encore, dans des camps secrets, des prisonniers de guerre américains. Le développement d'une suite du film First Blood débutera lorsque les copropriétaires de la compagnie de production Carolco Pictures, Andy Vajna et Mario Cazar, vendront les droits de distribution étrangers à des distributeurs en Europe et au Japon en 1983, annonçant alors la sortie de First Blood 2 pour décembre 1984. Ce sera le scénariste prometteur Kevin Jarre qui écrira un traitement d'histoire, traitement qui sera apprécié à la fois des producteurs et de Stallone, dans lequel se trouvait l'idée d'envoyer John Rambo chercher des prisonniers de guerre en Asie du Sud-Est ou au Vietnam. James Cameron sera par la suite embauché pour rédiger une première ébauche du scénario qu'il écrira simultanément avec ceux de ses films de Terminator et Aliens. Cameron avait été recommandé par le scénariste David Giller, qui avait effectué un travail non crédité sur le scénario du premier film. Le premier brouillon de Cameron s'intitulera First Blood 2 The Mission et avait la même structure de base que le premier long-métrage, mais était beaucoup plus violent que son prédécesseur. Dans la version de Cameron, Rambo se trouvait dans une aile neuropsychiatrique d'un hôpital pour anciens combattants au début de l'histoire. De plus, ce dernier aurait un acolyte dans sa mission, rôle que les producteurs voulaient offrir à l'acteur John Travolta, avec qui Stallone avait déjà travaillé quelques années auparavant dans le drame musical Staying Alive. De plus, Cameron développera des histoires élaborées pour chaque prisonnier qui était révélé tout au long de l'histoire. Cependant, Stallone avait le dernier mot sur la production et reprit le scénario de Cameron qu'il réécrira presque au complet, apportant de nombreuses modifications à ce dernier, telles que le changement de son acolyte qui deviendra une femme, un film beaucoup plus violent que la version de Cameron et surtout l'aspect des prisonniers de guerre qui sera simplifié, permettant ainsi à l'action de prendre le dessus. Au final, Jean recevra le seul crédit de créateur de l'histoire de base, tandis que Stallone et Cameron seront crédités pour le scénario. Au niveau de la distribution, l'acteur Lee Marvin, qui fut considéré pour le rôle du colonel Trotman dans le premier film, se verra offrir ici le rôle de Marshall Murdoch, mais celui-ci refusera de nouveau le rôle, qui sera alors confié à l'acteur Charles Napier. Pour le personnage du lieutenant-colonel russe Sergei Podovsky, le rôle fut initialement proposé au comédien Dolph Lundgren. Lundgren acceptera l'emploi et avait même signé un contrat, mais Stallone, qui lui avait également donné le rôle de Drago dans Rocky IV, reviendra sur sa décision et rachètera le contrat de Lundgren pour choisir l'acteur Steven Berkoff à la place, Stallone voulant protéger Lundgren pour que ce dernier ne soit pas trop associé au rôle de méchant russe par l'auditoire, surtout après sa prestation imposante dans Rocky IV. Finalement, le rôle, qui devait être offert à l'origine à John Travolta, sera remis à l'actrice Julia Nixon, qui obtiendra alors l'emploi, cette dernière faisant ici ses débuts sur le grand écran. Avant le début du tournage, Stallone suivra un entraînement des plus tortueux pour développer sa musculature à raison de 4 heures par jour, et ce durant plus de 8 mois. Il suivra également d'intenses cours de combat, de tir à l'arc et de survie. Durant ce temps, la réalisation du second volet sera offerte au metteur en scène de First Blood, Ted Kotcheff, mais ce dernier refusera après la lecture du scénario. Ce sera finalement Stallone qui offrira le poste de réalisateur au metteur en scène George P. Cosmatos lorsque le fils de Stallone, Sage, le recommandera après avoir vu son film d'horreur Of Unknown Origin. Cosmatos voulait tourner le film en Thaïlande, ce qui, selon lui, serait un meilleur substitut au Vietnam où se déroule la majeure partie du long-métrage. Mais, à cause de problèmes de logistique monétaire et de transport, la décision sera prise de tourner le film dans la jungle à l'extérieur d'Acapulco, au Mexique, ainsi qu'à Guerrero. Le tournage débutera en juin 1984 et durera jusqu'en août de cette même année, sous une température des plus suffocantes. Comme il était difficile de trouver des figurants asiatiques au Mexique pendant le tournage, tous les pirates, soldats et villageois apparaissant à l'écran seront interprétés par des travailleurs ou clients de restaurants chinois locaux. Le directeur de la photographie, initialement embauché, tombera malade peu de temps avant le début du tournage et les producteurs se devaient de trouver un remplaçant de dernière minute qui serait prêt à se rendre au Mexique. Par pure chance, et coïncidence, ce sera l'acteur Steven Berkoff qui découvrira, lors d'un appel téléphonique avec un de ses amis, que le très légendaire Jack Cardiff était en vacances à proximité à ce moment-là. Cardiff se montra initialement réticent à accepter le poste car il venait tout juste de terminer le travail de la direction photo sur l'adaptation cinématographique de Stephen King, Cat's Eye, et avait l'intention de passer des vacances tranquilles avec sa famille avant de rentrer chez lui au Royaume-Uni. Mais la persévérance de Stallone et des producteurs, ainsi qu'un montant d'argent important pour 6 semaines de travail, arriveront à lui faire changer d'idée. Tous les plans de la base militaire furent réalisés sur une piste d'atterrissage de l'armée de l'air mexicaine. La plupart des drapeaux mexicains sur les avions furent recouverts pour donner l'impression d'un hangar aérien américain en Thaïlande. Pour la statue géante du Bouddha que l'on voit pendant le générique d'ouverture, cette dernière était en fait faite de polystyrène et d'or peint. La statue fut placée dans un parking à l'extérieur d'Acapulco où elle sera photographiée avec le magnifique coucher de soleil derrière elle. D'ailleurs, la scène d'ouverture devait à l'origine être tournée dans une véritable prison. Mais il n'y avait aucune prison disponible pour les besoins du tournage à Acapulco et la décision sera alors prise de voir le colonel Trotman retrouver John Rambo alors qu'il effectuait des travaux pénitentiaires dans une carrière de roche. Pendant le tournage, l'équipe de production n'aura pas seulement à affronter la chaleur torride du Mexique, mais sera également confrontée à l'un des plus grands typhons à avoir frappé l'emplacement depuis des années, ce dernier détruisant presque toutes les routes de retour, ce qui bloquera l'équipe de production dans le pays. De plus, de nombreux décors qui furent construits pour la production seront également détruits. Afin de sauver sur les délais de production, Cosmatos louera une chambre dans un hôtel et décidera d'y tourner les plans rapprochés de Rambo alors que ce dernier se prépare pour sa prochaine mission avec son couteau emblématique. La démolition du camp de prisonniers vietnamiens par Rambo, avec l'aide d'un hélicoptère, fut tournée à l'aide de 4 caméras, dont une caméra filmant depuis un autre hélicoptère. Parlant d'hélicoptère, la scène de combat à l'intérieur d'un hélicoptère entre Rambo et l'homme de main russe Yushin devait à l'origine être tournée avec l'hélicoptère suspendu à une grue. Cependant, l'un des maillons de la chaîne se cassera et l'hélicoptère s'écrasera. Heureusement, personne n'était à l'intérieur de l'hélicoptère à ce moment-là. Après cette mésaventure, il fut décidé de tourner la scène de combat avec l'hélicoptère au sol en utilisant des éoliennes et des effets de lumière pour donner l'illusion que l'hélicoptère était bel et bien en vol. Il n'était pas hors du commun que l'équipe de production devait travailler 6 jours par semaine. Malgré cela, beaucoup de choses amusantes se produiront durant le tournage, y compris Stallone, qui s'est fait prendre dans une blague amusante par l'acteur Richard Crenna lors d'une entrevue avec Mirja Shriver. En représailles, Stallone jettera une tarte à la crème au visage de Crenna lors de son entretien respectif. De plus, les combats de boue entre les acteurs étaient courants, amusant ainsi les membres de l'équipe épuisés par de longues heures de travail à travers une température chaude et étouffante. De plus, suite au typhon, de nombreuses parties de la jungle ne seront accessibles que par hélicoptère, ce qui compliquera encore quelque peu la production. Mais, malheureusement, le tournage sera assombri par un triste accident. Alors que Stallone réalisera lui-même la majeure partie de ses cascades, incluant celle où il plongera dans l'eau avant que son embarcation n'entre en collision avec un bateau militaire en feu, arrivera le tournage de la fameuse chute d'eau. Afin d'obtenir l'effet souhaité de destruction massive, la séquence nécessitait plus de 300 gallons d'essence, 200 livres de poudre noire, 5000 pieds de cordon d'amorçage et plus de 15 000 pieds de fil pour déclencher les charges sur commande. Stallone filmait lui-même la séquence durant laquelle il plonge dans l'eau avant l'explosion de la dite chute d'eau. Après le tournage d'une séquence en rapport avec cette scène, le responsable des effets spéciaux, Clifford Wenger, perdra pied au sommet de la cascade et chutera à sa mort. Il faudra plusieurs minutes aux autres membres de l'équipe afin de récupérer le corps de l'homme de 34 ans au bas de la dite cascade. Le film lui sera d'ailleurs dédié lors de sa sortie en salle. Quelques séquences seront retournées après une série de prévisionnements tests, alors que le compositeur Jerry Goldsmith s'occupera de la création musicale du film, la chanson thème « Peace in Our Life » étant chantée par le frère de Sylvester Stallone, Frank. Le titre original du film fut « Second Blood », puis « First Blood 2 », mais Sylvester Stallone décidera qu'il voulait que la série porte le nom du personnage principal, tout comme la série Rocky. Ce sera lui qui demandera donc que le long-métrage porte le titre de « Rambo First Blood Part 2 » afin de pouvoir nommer le troisième film « Rambo 3 » en 1988 au lieu de « First Blood Part 3 ». Le film battra un record lors de sa sortie en salle, devenant le film hollywoodien à ouvrir dans le plus grand nombre de salles nord-américaines avec 2074, ce record ayant été réalisé l'année précédente avec les 2010 salles de Beverly Hills Cop. Rambo First Blood Part 2 amassera plus de 150 millions de dollars de recettes au box-office nord-américain sur un budget total de 44 millions de dollars, incluant les frais de marketing et de distribution. Rambo sera l'un des rares films classés « Restricted » qui obtiendra un large attrait pour les détenteurs de licences de marchandises. Les magasins de jouets se mettront à vendre des figurines d'action de Rambo, des ensembles de jeux, des pistolets à eau, des walkie-talkies, des montres, ainsi que des vêtements de sport pour tous les âges. La vente de marchandises en rapport avec Rambo ne montreront aucun signe de ralentissement, malgré le fait qu'il ne s'agit pas ici d'un film pour enfants. D'autres produits se rajouteront alors, incluant des pistolets électroniques, des cartes à collectionner, du chewing-gum, des bandes dessinées, des livres à coloriage, des jeux de société, ainsi que des jeux vidéo. Même les affiches du film de Rambo se vendaient comme des petits pains. La compagnie One Stop Posters à Los Angeles ayant vendu plus de 600 000 posters du film Rambo First Blood Part 2. De plus, le Washington Post rapportera que les magasins d'armes et de chasse de la région de Washington seront bombardés de clients à la recherche du fameux couteau de survie de 10 pouces utilisé par Rambo dans le long-métrage. Les magasins qui vendaient des modèles avec des lames plus petites ont signalé alors une augmentation des ventes. Le directeur de Remington Shavers and Knives in Washington, Donald Blatchers, annoncera dans un article que, avant la sortie du film Rambo First Blood Part 2, sa compagnie ne vendait qu'à peu près un couteau de survie par mois. Après la sortie du film, il faisait en moyenne la vente de plus de 50 couteaux par mois. C'est Jimmy Lyle, connu sous le nom de Arkansas Knife Smith, qui s'occupait de la conception des couteaux utilisés dans les films de Stallone. Chaque couteau fut fabriqué sur commande. Stallone sera crédité d'avoir fait pour l'industrie de la coutellerie ce que Dirty Harry avait fait pour le pistolet 44 Magnum en 1971. Ayant écrit le roman original First Blood, l'écrivain canadien David Morrell sera embauché pour écrire la novélisation de Rambo First Blood Part 2. Réticent à l'origine, l'auteur acceptera et verra alors son œuvre littéraire apparaître sur la liste des meilleurs best-sellers, y compris celle du New York Times. Morrell se servira du scénario inutilisé de James Cameron pour compléter l'écriture de son roman. Le film sera interdit de diffusion en Inde en raison du sentiment anti-soviétique et anti-vietnamien du film. Rambo First Blood Part 2 sera le seul film de la franchise à obtenir une nomination aux Oscars, soit dans la catégorie meilleur montage sonore. Cependant, le film sera également le plus grand gagnant de l'année 1986 des Golden Raspberry Awards annuels, un événement donnant des prix pour les pires réalisations cinématographiques de l'année. En effet, le long-métrage remportera 4 prix sur 7 nominations, dont celui du pire acteur, le pire scénario, le pire film et la pire chanson-thème. L'auteur John Wilson nommera Rambo First Blood Part 2 comme l'un des 100 pires films les plus agréables à regarder dans son livre The Official Ready Movie Guide. Sur le plan légal, le producteur Stephen G. Cannell déposera une poursuite pour rupture de contrat en rapport avec les droits de commercialisation de la suite de Rambo. Son entreprise, qui gérera les ventes de marchandises de Rambo pour les producteurs du film, réclama pas moins de 65 millions de dollars de dommages et intérêts, accusant la compagnie Carolco d'avoir tenté de réduire ou d'éliminer les frais de vente de 20 % du produit brut du merchandising et des publications de Rambo auxquels la société avait déclaré avoir droit en vertu d'un accord oral conclu en février 1985. Cette situation se réglera hors cours. De plus, l'auteur de First Blood, David Morrell, intentera une action en justice déclarant que les producteurs du film ne lui avaient pas versé sa part complète des bénéfices nets des deux premiers films de la franchise, accusant Carolco de sous-estimer substantiellement le montant réel des bénéfices nets réalisés par les deux films, y compris l'omission des revenus de merchandising. Morrell réclamera plus d'un million de dollars de dommages et intérêts et plus d'un million de dollars punitifs, ainsi qu'une injonction contre toute exploitation ultérieure de l'utilisation du droit d'auteur de son histoire. Cette situation se réglera également hors cours. L'acteur Charles Lewis Napier décédera à Bakersfield, en Californie, le 5 octobre 2011, après s'être effondré la veille. Il avait 75 ans. Du côté des points forts, eh bien, Rambo First Blood Part 2 ne perd pas son temps et va directement à l'action, une action qui saura sans difficulté plaire à tous les habitués du genre. Le rythme est endiablé du début à la fin, mais prend tout de même le temps de s'attarder un peu plus à la psychologie de Rambo, donnant à ce dernier une dimension plus profonde que dans le film précédent. Du côté musical, Jerry Goldsmith est de retour en très grande forme et nous donne ici une des meilleures soundtracks de la franchise. L'acteur Richard Crenna est de loin supérieur au niveau interprétation que dans le premier film et nous donne un colonel Chapman beaucoup plus humain ici et beaucoup moins robotique. Les cascades sont spectaculaires, tout comme le travail de Stallone qui, encore une fois, se donne à 200 % pour son rôle, ce qui rend crédible sa performance. bien que le sujet des prisonniers de guerre du Vietnam ait déjà été traité dans des films comme Uncommon Valor et Missing in Action, Rambo First Blood Part 2 est de loin supérieur à ses deux autres productions, principalement au savoir-faire de Stallone qui sait donner à son auditoire ce qu'il veut voir. Mais du côté des points faibles, eh bien, la mise en scène de Cosmatos est mécanique et quelque peu répétitive, le metteur en scène ne nous offrant que quelques moments mémorables dans le film. Les séquences d'action tombent quelque peu dans le ridicule, les ennemis ne servant que de pâté à chien à notre héros et continuant de surgir sans arrêt avec des équipements de plus en plus gros, tel un jeu vidéo, afin de servir l'intensité de vengeance de notre héros ici. Le film ralentit au milieu, pendant quelque peu son rythme acquis au début, mais se reprend de belle façon par la suite, surtout durant le combat final. L'histoire et les séquences d'action sont invraisemblables et le film tombe dans le patriotisme à l'extrême où notre héros devient tout simplement un one-man show. Mais on s'en fout quelque peu, car c'est Rambo et c'est la raison pourquoi qu'on le regarde ce film. Le speech final de Stallone ici est beaucoup plus mécanique et possède beaucoup moins de vie que celui qu'il donnera à la conclusion du premier film. Et cela nous donne vraiment ici l'idée que le personnage est devenu beaucoup trop caricatural à l'extrême, au point de devenir une satire de lui-même. Au niveau de la composition musicale, eh bien, c'est encore une fois le compositeur américain Jerry Goldsmith, lui qui avait travaillé sur la musique des films The Omen, la version 76, Capricorn One et The Boy from Brazil. Cette trame sonore, qui sera distribuée en CD en 1985 sous l'étiquette Varese Saraband, qui sortira également en cassette et en vinyle le 22 mai 1985, toujours sous l'étiquette Varese Saraband. Il y aura également une autre version en CD qui sortira intitulée Rambo First Blood Part 2, qui sortira sous l'étiquette Silva America. Et finalement, il y aura le Complete Score de Rambo First Blood Part 2 qui sera distribué le 8 août 2016 en CD par les étiquettes Integra. Du côté des cotes artistiques, eh bien, First Blood est coté 5 par Mediafilm. Je lui donne également une cote 5 au niveau de l'âge et du contenu. La régie du cinéma cote le film First Blood 13 ans indicatif. J'y vais également avec une cote 14 ans pour une violence graphique et surtout un langage vulgaire. Du côté de Rambo, First Blood Part 2, Mediafilm cote le film 5. J'y vais également avec une cote 5, bien qu'il y a beaucoup d'action, c'est une action qui est soutenue, demeure quand même qu'il y a beaucoup de faiblesses au niveau du scénario et un film qui, malheureusement, est beaucoup trop over the top. Au niveau de l'âge et du contenu, à l'époque, Rambo First Blood Part 2 était coté 18 ans. Aujourd'hui, la régie du cinéma a revu l'âge et a coté le film 13 ans indicatif. J'y vais également avec une cote 14 ans, malgré quelques séquences de torture. N'empêche que Rambo est un film qui s'écoute bien pour un groupe d'adolescents, surtout aujourd'hui. Là, on est tellement habitué à pire. Et il ne faut pas oublier aussi que le film contient un langage assez vulgaire. Au niveau de la disponibilité, au niveau du Blu-ray et du DVD, bien, First Blood est disponible en français et en anglais, en DVD et en Blu-ray. Vous êtes capable également d'avoir des éditions spéciales qui réunissent non seulement First Blood et Rambo First Blood Part 2, mais vous avez également des éditions spéciales des trois premiers films, des quatre premiers films, et vous avez également une édition qui comprend le coffret des cinq films de la série. Du côté de Rambo First Blood Part 2, le film est disponible en DVD, en Blu-ray, en français et en anglais. Vous avez une version 4K également qui est disponible sur le marché. Et bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, toutes les éditions complètes, là, que ce soit Rambo 2, Rambo 3 ou Rambo 1, 2 et 3 ou Rambo 1, 2, 3 et 4 ou même les 5 films dans le même coffret. Donc, ce sont toutes des choses que vous pouvez trouver sur le marché actuellement.
Attention, please. A $50 reward will be paid for information leading to the arrest and conviction of anyone caught stealing our speakers. If you accidentally pull a speaker loose, don't worry. Just turn it in. There is no charge, and we'd appreciate it.
Drive away your worries and cares at this drive-in theater.
where you will see the finest motion pictures of all time soon to be released. Drama, comedy, adventure, excitement, something for everyone. Here's a brief glimpse of some of the truly fine pictures we've scheduled in the near future.
Secrets. But the time has come to face my past. And if it comes looking for me, they will welcome death. I want revenge.
Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night. As you leave the theater, folks, please be careful. Don't let this happen to your car. Be sure to remove the speaker before you leave. If you should accidentally pull a speaker loose, please turn it in at our snack bar or box office. Thank you.